Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Lusitania sur Allegre FM 93.1, une émission consacrée à la promotion des cultures lusophones. L'émission d'aujourd'hui va parler de cinéma brésilien et ajouter quelques réflexions aux discussions autour du film à énorme succès « Je suis toujours là » qui est en salle en ce moment, et parler de 12 autres initiatives liées à la promotion de l'enseignement de la langue et culture portugaise. Pour nous accompagner dans cette émission à propos du film « Je suis toujours là » et le cinéma brésilien contemporain, nous avons le plaisir d'accueillir Sandro Cicencio, producteur culturel et programmateur du Festival de cinéma brésilien de Paris, un événement historique organisé par l'association Jangada. Bonjour Sandro.
Bonjour Anna, bonjour Renata, bonjour tout le monde.
Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Renata Salles, brésilienne à Paris, qui a vécu pendant la dictature militaire au Brésil et qui nous racontera un peu de son expérience de vie pendant cette période et aussi ses impressions sur le film. Hola Renata.
Bonjour.
Dans un deuxième temps, nous parlerons plus tard sur les journées des portes ouvertes du lycée Balzac qui aura lieu la semaine prochaine, le 8 février. Le lycée Balzac est un lycée public dans le 17e arrondissement de Paris qui a une section d'enseignement de portugais gratuite. Et aussi parler de l'événement Trabalhar Juntos, une initiative de Cap Magelan, une association connue de tout le monde, de tout le réseau lusophone, fondatrice de ce réseau Trabalhar Juntos et qui va essayer notamment de créer des nouvelles synergies pour promouvoir la culture. Je m'appelle Anna, je suis avec vous chez Lusitania, chez Allegre FM et j'ai le plaisir d'avoir à la technique Damien Gissa et Armand Gury qui vont nous accompagner et nous aider pendant toute cette émission. Pour bien démarrer et donner le ton, je propose les guitares rock de Tom Zé avec la chanson Jimmy Rendes, qui est présente dans le film Je suis toujours là, dont nous allons parler dans quelques instants. Guta, guta, me look, me look, love me. Guta, me look, me look, love me. Taxi, taxi, destaque, taxi. Taxi, taxi, destaque, taxi. Oh, tiki, tiki, boutique, que tiki, tigamu. Boutique, que tique, diga amor. Oh, toque-se rock, se rock, rock me. Toque-se rock, se rock, rock me. La 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 la. Oi, le 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 le. Bob Dica, diga, que me renda assim. Cai cigano, cai canombó. Já arranjou Century Fox, Calvin Mia, Cigarettes, Billy Haley, Holy Flex, Johnny Shop, 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 Shop. Bob Dica, diga, Jimmy Reyes, cai cigano, cai canumbó. Já arranjou Century Fox, Calvin Mia, Cigarettes, Billy Haley, Holy Flex, Johnny Shop, 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 Shop. Jane, chop, 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 chop. Oh, Jane, chop, 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 chop. Oh, Jane, chop, 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 chop. Yeah, 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 yeah. Taque, taque, xi.
Taque, sotaque, destaque, taque, xi.
Oh, tique, boutique, que tique, digamo.
Tique, boutique, que tique, digamo.
Oh, toque, toque, se rock, rock me.
Toque, se rock, rock me.
La, 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 la.
La, 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 la.
Le, 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 le,
pai cigano, pai camônigo. Já rangiu Century Fox, Galve Mia, Cida Hat, Billy Halle, Holly Fex. Chop, 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 chop. Bob Dica, Dida, Jimmy Reda, sim. Cai cigano, cai camônigo. Já rangiu Century Fox, Galve Mia, Cida Hat, Billy Halle, Holly Fex. Shelly, chop, 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 chop. Ojane, chop, 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 chop. Ojane, chop, 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 chop. Ojane, chop, 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 chop. Iehele, 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 iehele.
Et vous êtes sur Allegre FM, vous écoutez Lusitania et nous venons d'écouter Tom Zay avec la chanson Jimmy Rendes. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma brésilien. Parlons-en. Le 15 janvier est sorti en salle le film Je suis toujours là, film brésilien réalisé par Walter Salles et qui met à l'écran l'histoire du couple Ruben Spive et Eunice Spive. Lui, militant contre la dictature, a été enlevé, torturé et assassiné par les militaires. Elle, Eunice, se retrouve aussi en prison et sera obligée à refaire son histoire suite à l'événement tragique de la disparition de son mari. Le film s'appuie dans le film biographique homonyme écrit par Marcel Rubenspive, écrivain et fils de Rubens Eunice. Le film a plusieurs couches qui se superposent. L'histoire de la famille Pive, les mœurs de la société brésilienne de l'époque, surtout dans les classes plus cultivées, les références culturelles, musicales, les événements politiques et l'avant et l'après d'un événement traumatique, tragique. Ce film est un phénomène de popularité au Brésil et au Portugal, où c'est très commun de trouver des salles de cinéma remplies comme jamais et une demande croissante. Aussi, une reconnaissance internationale extraordinaire, primée aux Golden Globes, Satellite Awards, Mostra de Venise, en lice pour 3 Oscars, dont le meilleur film et celui de meilleure actrice. Ce qui nous ramène à un autre point, la coronation de la popularité de Fernanda Torres, égérie de la culture brésilienne, de la comédie des sitcoms grand public, cinéma d'auteur, théâtre, elle était très connue par la pièce La maison des Bouddhas heureux, littérature, puisqu'elle est autrice de 2 romans, elle devient l'icône totale, nationale et internationale. Et aussi une étincelle supplémentaire dans la carrière brillante de Fernanda Montenegro, qui a 95 ans, actrice et comédienne historique du Brésil et qui rentre aussi dans le film « Je suis toujours là ». Et une popularité accrue pour Selton Mello, déjà bien connu du public. Le film marque aussi l'évidence de la grandeur de Walter Salles, réalisateur déjà nommé pour les Oscars avec Central do Brasil, et qui répète la prouesse avec ce nouveau film. Mais le film cartonne aussi car il révisite la période de la dictature militaire au Brésil, vigente entre 64 et 85, et est sans aucun doute un document artistique de réflexion sur cette blessure collective. Les invités d'aujourd'hui, Renata et Sandro, vont nous aider à comprendre un peu plus sur ce film, l'histoire du Brésil et de son cinéma. Rebonjour à vous deux. J'aimerais vous poser une première question. Je peux commencer par Renata. Tu as vu le film. Quel était ton ressenti quand tu l'as vu?
Et comme je disais, j'ai vu le film quand j'étais au Brésil, en vacances. Et l'impression que j'ai eue, c'était de revivre un peu. J'ai passé mes premières 15 ans de ma vie, c'était au Brésil, pendant la dictature militaire. Donc c'est comme si je vivais la tension constante qui j'ai vécu quand j'étais petite. Donc, il avait une menace constante. Et le film, il amène ça dans le silence, sans des scènes de violence, mais la menace, elle est là constamment.
Et toi, Sandro, comment tu l'as vécu?
J'étais ému depuis la première scène jusqu'au bout. Je pense que la présence de Rubens dans la première partie du film, elle est très marquante parce que son absence, elle sera là aussi. Donc on a toujours l'espoir, on sait, je sais comment regarder Titanic, on sait que le bateau va couler, on sait que Rubens Paiva ne va pas revenir. Mais on a toujours l'espoir parce qu'on voit l'espoir, on vit l'espoir de Nice, les premières années de sa recherche. On a l'espoir qu'il va revenir, même en sachant qu'il ne revient pas, parce que sa présence est tellement marquante, et la famille était tellement heureuse, et le film est tellement bien construit, l'enchaînement de scènes, les sujets et tout. J'étais super émue de voir le film, franchement.
Et dans votre entourage, famille, amis, quels sont les échos que tu as reçus, Sandro, par exemple?
Ouais, j'ai des amis qui ont vu le film en plusieurs villes au Brésil. Et ce que la plupart des gens m'ont dit, c'est que les gens pleuraient à la sortie du film. Il y a des gens qui pleuraient depuis la moitié du film jusqu'au bout, mais plusieurs personnes m'ont dit qu'il y avait des spectateurs partout qui pleuraient, qui étaient touchés par le film parce qu'il est d'une beauté violente.
Et dans ton entourage, Renata?
Oui, ça amène beaucoup d'émotions parce que ça nous ramène à cette époque. Donc, il y a eu beaucoup de dialogues. Donc, on a reparlé de comment c'était cette lutte qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, même le nom du film amène à plusieurs questions. On est encore là et la lutte continue. Donc, ça, les dialogues, les discussions et de comment on peut continuer à mener, c'est très important. Et quand il a eu les Golden Globes, donc c'était comme la Coupe du Monde, comme si on avait gagné la Coupe du Monde.
Il y a un phénomène collectif par rapport aux Oscars.
Complètement.
C'est une question nationale, j'ai l'impression.
Complètement,
oui. Que Fernanda gagne les Oscars. Walter aussi, j'ai l'impression, s'il gagne bien évidemment l'Oscar de meilleur film, ou meilleur film étranger, mais vis-à-vis d'elle, Fernanda Torres, je pense que le phénomène est très 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 populaire. Évidemment, Fernanda Torres, elle est connue du grand public parce qu'elle a participé à des sitcoms très populaires il y a 20 ans. Voilà. Et qu'est-ce que tu as ressenti pendant tes vacances au Brésil?
Oui, donc non, Fernanda Torres, elle était dans la télévision, elle a fait plusieurs programmes, donc elle fait partie de la culture nationale, si je peux dire, avec sa mère aussi, donc qui a été aussi aux Oscars, elle parle beaucoup de ça. Et pour nous, c'est important. On était presque là cette fois. On a réussi déjà quelque chose, mais on est tous derrière. C'est comme si ça venait à nous, Brésiliens lambda, n'importe qui. Parce que ça parle de notre histoire. Donc, parler de cette histoire, de ces moments qui a été silencieux pendant longtemps et que ça continue d'avoir plusieurs versions. Donc, quand il y a quelque chose, c'est un film historique d'une histoire réelle, non? Donc, pouvoir parler de ça d'un film qui passe dans une période où on ne pouvait pas parler, on n'avait pas la liberté de parole, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on peut parler, on doit pouvoir raconter l'histoire. Comment elle a passé.
Et concernant le film et ce document artistique, comme je disais tout à l'heure, Sandro, quel choix artistique de réalisateur t'ont plus marqué?
Déjà la musique. Je pense que la bande sonore du film, elle est parfaite. Il commence avec Tom Zé, qui est un génie de la musique brésilienne, mais très sous-valorisé au Brésil. Je pense qu'il n'a pas reçu l'attention qu'il mérite depuis les années 70. Et ça commence avec cette chanson, Jimmy Rende, c'est un plagiat qu'il a fait d'une chanson à lui, donc il est vraiment génial. Et après, la chanson de Erasmo Carlos, parce qu'il était toujours à l'ombre, à côté de Roberto Carlos, qui n'est pas forcément une bonne personne. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas forcément une bonne personne. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais de faire revivre Erasmo Carlos, ça fait 2 ans qu'il a décédé, et de faire en sorte que tout le monde chante sa chanson et que les gens commencent à aussi parler de ce disque, Carlos Erasmo de 72, qui est un disque magnifique du rock et de la musique brésilienne. Donc je pense que les images, le texte, tout est bien, mais ce qui m'a marqué tout d'abord, c'était la musique, parce que ça donne un rythme au film. Et ça fait en sorte qu'on va se plonger dedans et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. C'est incroyable, franchement.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et toi, Renata, qu'est-ce que t'as marqué comme choix de réalisateur?
Les couleurs. Il a une tonalité dans les films qui ramène à cette époque des 70. C'est comme si j'avais plongé encore, comme si j'étais petite et je vivais les couleurs, toute la scénographie aussi, donc les meubles il a beaucoup de références, les voitures, donc beaucoup de références à cette époque. C'était très bien fait et ça nous plonge comme si on vivait encore dans cette époque avec par la tonalité et les couleurs. Ça m'a beaucoup marqué. Souvent dans les films, on voit il a un pic et après ça revient, et là c'est une tension constante. Et non, et tout le temps, il a après, donc une fois on est à la plage, tout va bien et tout, et après une fois qu'il a de la tension elle est là tout le temps, elle part pas. Et c'était ces vécus qu'on avait au Brésil à cette époque très très clair. Il a au Brésil, on dit quand quelque chose va pas très bien, on dit mais est-ce que serait les bénédictes, sera o benedito, c'est une expression brésilienne, est-ce que c'était Bénédicte qui faisait ça, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Et on disait beaucoup, ça, c'était une expression de l'époque. Et moi, j'avais peur, j'étais petite, j'avais peur des bénédites, parce qu'à chaque fois qu'on utilisait l'expression, c'était quelque chose qu'on ne savait pas, qu'est-ce que ça allait passer. Et cette question de ne pas savoir qu'est-ce que ça peut passer, parce qu'il y a des choses très mauvaises qui peuvent se passer quand on vit sur une dictature militaire. Les films amènent cette tension constante pour des choses simples. On sort avec une voiture, on n'a pas les documents.
Exactement, il y a une scène comme ça, la scène de document.
Et je me rappelle des tensions dans la famille, je ne sais pas vous, Sandro, mais on doit toujours sortir avec nos documents. On ne peut pas sortir sans les documents. Parce que des choses terribles pourraient se passer, on ne savait pas qu'est-ce qui pourrait se passer.
Et juste pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, pendant le film, il y a une scène où justement un groupe de jeunes part dans une voiture et est arrêté par les militaires. Et justement, on peut sentir cette tension. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai les documents? Est-ce que j'ai rien sur moi qui va me mettre dans des soucis? Voilà, donc c'est vraiment cette tension dont tu parles.
Oui, tout à fait.
Je propose qu'on écoute justement ce génie Erasmo Carlos avec une autre chanson qui est dans ce film et dans cette bande sonore. Et la musique s'appelle « É preciso dar um jeito, meu amigo » de 72. Et elle est comme ça.
Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa. E na minha caminhada, obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Mas estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu do outro dia. As crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu.
amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim, é preciso dar um jeito, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim, é preciso sim, é preciso dar um jeito.
C'était Erasmo Carlos avec la chanson « Est preciso dar um jeito, meu amigo ». Vous êtes sur Lusitania, vous écoutez Aligre FM. Aujourd'hui, avec Sandro Isencio et Renata Salles, pour nous parler du film « Je suis toujours là », mais aussi du cinéma brésilien qui parle, qui représente, qui porte un regard sur la période de la dictature. Et ce film « Je suis toujours là » nous parle d'une époque très particulière. On voit dans le film deux temps parallèles. Le temps de l'insouciance, des enfants, des repas de famille, des amis, des glaces à la pâtisserie, des matchs de volley-ball sur la plage. Et le temps de répression et de résistance, la préoccupation et un vernis qui craque dans cette famille à jamais. L'engagement politique de Ruben Spive est une dimension parmi d'autres dans le film. Elle est différente de l'approche d'autres films, comme par exemple celui de Marighella, réalisé par Wagner Moura, où on voit de façon plus explicite les répressions des militaires et aussi de la lutte armée de résistance. Dans ce film-là, je suis toujours là. Justement, Renata parlait de ça tout à l'heure. On ne voit pas, mais on sent la tension, sans voir beaucoup de violence. Sandro. Tu penses que ce film, Je suis toujours là, apporte une nouvelle perspective sur le sujet de comment le cinéma brésilien regarde la dictature militaire?
Tout à fait. Je pense, je reprends un peu les mots de Marcelo, de l'auteur du livre, parce qu'il a dit qu'en même temps que sa mère perdait la mémoire, parce qu'elle était atteinte de l'Alzheimer, et le Brésil aussi perdait la mémoire de la dictature. Et on a vu l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, on a vu le coup d'État contre Dilma. Et le coup d'État contre Dilma, c'était très important pour qu'il puisse écrire ce livre-là, parce que c'est Dilma, l'ex-président du Brésil, qui a fait la Commission nationale de la justice et de la vérité, qui a enquêté sur les crimes de la dictature, qui a enquêté sur les gens qui ont tué Rubens Paiva. Donc, en même temps que sa mère, que la mère de Marcelo perdait la mémoire, le Brésil perdait la mémoire de ce qui a été l'horreur de la dictature. Et je pense que le livre vient pour combler un peu cette lacune et qu'on puisse toujours avoir la mémoire que nous sommes toujours là et on va toujours résister.
Par rapport à d'autres films, là tu parles de mémoire, mais il y a d'autres films qui ont déjà porté sur le sujet. Il y a celui de Marighella, il y en a d'autres.
Ouais. Il y a un film très intéressant aussi qui s'appelle La Marque, que c'est un militaire qui n'était pas d'accord avec la dictature. Du coup, il est sorti de l'armée et il a créé une milice, une guérilla pour lutter contre la dictature. Il a fait la lutte armée et évidemment, il a été tué par les militaires, mais sa lutte n'a été jamais oubliée. Il y en a d'autres. Il y a Quarup aussi, qui est un livre super beau, qui parle un peu de la théologie de la libération et comment il y avait dans l'Église catholique une résistance aussi contre la dictature. Le film n'est pas autant, il n'est pas à la hauteur du livre, mais c'est un film très important aussi. Et il y a 4 jours en septembre, au Keis Companheiro, aussi avec Fernanda Torres, qui raconte un peu ses petites actions de sabotage. Donc, il y a une liste énorme de films et Je suis toujours là, il vient aussi pour couronner un peu ce genre du discours cinématographique brésilien.
Juste pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, Sandro vient d'évoquer le film La Marca, réalisé par Sergio Rezende. Et ce général Carlos Lamarca est fait par Paulo Betti, qui est aussi un acteur très connu des telenovelas et aussi une figure populaire, de la culture populaire. Donc c'est une cinébiographie de Carlos Lamarca, ce militaire qui était résistant au régime. Sandro t'a aussi parlé du film Quarup, dirigé par Rui Guerra. Et c'est l'adaptation exactement d'un livre d'Antonio Collado sur un prêtre et sa conversion à la résistance. Mmh. Et il y a aussi le film Queis Companheiro, réalisé par Bruno Barreto, qui compte avec Fernanda Torres, qui rentre dans ce film-là, mais aussi Selton Mello, qui rentre aussi dans ce film-là. Donc on voit déjà deux acteurs engagés, en fait, en tout cas intéressés par raconter cette partie de l'histoire du Brésil. Je pense que ces films-là m'ont ressenti, en tant que portugaise extérieure, et je n'ai rien à vous apprendre là-dessus, il apporte aussi une vision beaucoup plus grand public, un impact bien plus vaste que tous les autres films dont nous avons parlé. Déjà, le film Marighella, qui était réalisé par Wagner Moura, et Assis Jorge qui protagonise, et Assis Jorge est très connu, mais je pense que le film n'a pas eu l'impact que celui-là. Et de mon regard extérieur, je pense que celui-là, il rentre vraiment dans le grand public, dans une frange de population beaucoup plus vaste. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
Bon, je pense que je suis toujours là. Il a eu le succès que Marighella aurait mérité d'avoir aussi. Marighella, il est sorti en 2019 pendant l'ancien gouvernement qui avait des inclinaisons un peu fascistes, on peut dire. Et c'était aussi l'époque de la pandémie. Donc les cinémas étaient fermés. Pour faire le film sorti au Brésil, c'était super difficile. Il a été lancé d'abord à Berlin, après il a été diffusé ici en France. Donc il est arrivé au Brésil avec 2 ans de retard, avec les cinémas vides. Mais c'est un film grand public aussi, parce que je peux raconter, je suis allé voir avec ma mère. Ma mère n'est pas une personne super intellectualisée, elle est évangéliste. Elle a adoré le film, elle a adoré Seu Jorge, elle a adoré voir l'histoire dans son ensemble. Évidemment, elle a été impactée parce que les scènes de violence, elles sont très explicites, c'est choquant. Mais elle a adoré le film. Donc, je pense que le thermomètre de la personne qui n'a pas forcément une formation sociologique et qui apprécie le film, qui rigole et qui pleure en même temps, je pense que le film, il aurait pu toucher un public immense dans d'autres conditions, dans un autre contexte.
Allegre FM 93.1.
Et Renata, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ce film va vraiment toucher le grand public ou c'est un autre parmi les autres films dont on vient d'évoquer?
Oui, je pense qu'il a un temps, non, quand on lance un film ou une chanson ou même un projet en entreprise. Et ça a le temps pour, avec de bonnes conditions. Et aujourd'hui, je pense qu'on a des meilleures, je suis d'accord avec Sandra, donc là, on a des meilleures conditions pour qu'il y ait beaucoup d'impact, et que c'est le cas, donc on voit déjà ça. Et comme il a aussi toutes les indications aux différents prix, donc ça amène aussi à que les gens soient plus intéressés, et une ouverture internationale. Donc c'est ça, on a beaucoup de fierté aussi par cette question de pouvoir amener le Brésil, un film comme Fernanda Torres a dit, un film qui a parlé en portugais, qui vient aux Oscars et tout, il a un impact international important. Et pendant la dictature, c'était la politique internationale a eu beaucoup d'impact aussi par rapport au coup d'État, donc le soutien des États-Unis dans tout ce qui s'est passé en Amérique latine,
il y a eu le Chili, il y a eu beaucoup de Venezuela,
l'Argentine,
exactement.
Et aussi la façon comme il parlait du cas de Rubens Paiva, en essayant de parler avec les journalistes internationaux pour pouvoir faire parler de ce qui s'est passé au Brésil. Un peu qu'aujourd'hui, on peut aller à l'international et parler de ça, parce que ces phénomènes des attaques à la démocratie, il est mondial. Non, c'est pas qu'au Brésil qu'on est sous cette menace. C'est partout. Donc, c'est un film de cette époque, encore. Même si ça fait 50 ans, plus de 50
ans. C'est actuel, c'est ça que tu veux dire.
Et c'est intéressant parce que mes parents, mes tantes, par exemple, elles qui sont déjà, elles ont plus de 70 ans, donc elles sont, mais on a tellement lutté pour arriver là et encore devoir lutter. Mais c'est ça que le film dit, il faut toujours toujours continuer la lutte. On ne peut pas baisser les bras contre des attaques à la démocratie.
Oui, mais c'est toujours précaire. La démocratie, la liberté sont toujours précaires. Je vous propose, si vous êtes d'accord, une autre chanson du film, puisque c'est aussi un très beau choix de réalisateur ou de l'artiste qu'il a choisi. Je vous propose une chanson que, personnellement, ça me plaît beaucoup. Et c'est la chanson « Take Me Back to the POE » de Jou Kachav, que je ne connaissais pas. Et la musique est comme ça.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Paris tropical, adeus Brigitte Bardot. O champanhe me fez mal, caviar já me enjoou. Simonauta estava certo na razão do Patropi. Eu também que sou esperto, vou viver no Piauí. Minha terra tem chacrinha, que é louco como ninguém. Tem Juca, tem Teixeirinha, tem Dona Hebe também. Tem maçã, laranja e figo, banana quem não comeu. Manga não, manga é o perigo, quem provou quase morreu. Mudo meu ponto de vista, mudando de profissão. Pois a moda agora é artista, ser júri em televisão. Tomar banho só de cuia, comer jaca todo mês. Aleluia, aleluia, vou morrer na BR3. Everybody! Hey, hey, Gigi, take me back to Piauí. Meu Deus, take me back to Piauí.
Et vous écoutez Lusitania à Allegre FM 93.1. C'était la voix de Jou Kachav avec la chanson Take Me Back to the POE, une chanson qui est présente dans le film Je suis toujours là. J'aimerais bien reparler de l'impact que le film a eu pour les Brésiliens, Sandro et Renata. Et j'ai une curiosité vis-à-vis de cette histoire, puisque je l'ai connue là récemment avec la sortie de ces films. Et ma curiosité est la suivante. Est-ce qu'avant ce film, est-ce que cette histoire de Rubens Paiva et la lutte d'Eunice Paiva qu'on voit dans le film, elle est connue des Brésiliens? C'est quelque chose de répandu ou c'est un événement historique qui n'est pas très parlé? Renata, qu'est-ce que tu...
Le Brésil est très grand, non?
Bien sûr, je comprends.
Elle est connue d'une grande partie des Brésiliens. Mm-hmm. Rubens Paiva, il a aussi écrit un livre qui était très à la mode des années 85, un peu après, sur sa, son histoire à lui, donc c'était très à la mode. Donc c'était, c'est, Rubens Paiva était un nom connu, et la lutte aussi était connue par, par rapport à ce qui s'est passé à Rubens Paiva, mais aussi d'autres disparus et torturés. Mm-hmm. Donc il a une, d'une partie de la société importante, oui, Eunice était une personne qui est un symbole en fait, de cette lutte, comme la d'autres, mais elle était un symbole très important et elle a conquis en fait, certaines choses très importantes pour tout le monde dans cette lutte.
Oui, oui, j'ai lu qu'elle était la seule veuve qui était dans la cérémonie officielle de reconnaissance de décès de plusieurs personnes dans lesquelles on n'a jamais retrouvé les corps, par exemple. Et pour toi, Sandro, donc c'est une histoire que est partiellement connue.
C'est très peu connu en fait dans la profondeur que l'histoire mérite, parce que Eunice Paiva, elle était une des premières avocates à défendre le droit des peuples autochtones, par exemple. Et ça, on ne savait pas. Et elle, qu'elle a eu une formation en droit après l'enlèvement et l'assassinat de son mari, elle a utilisé toute cette connaissance pour défendre aussi les peuples autochtones du Brésil. Et pour parler un peu de l'impact que le film a eu, et, bah, déjà, il y a plus de 4 millions de spectateurs qui ont vu le film au Brésil. Je trouve ça énorme, franchement. Je ne sais pas si ça arrive de partout, mais je trouve ça énorme. Et une autre chose, c'est qu'on a su, bah, les journalistes sont allés enquêter un peu, et ils ont appris, ils ont découvert que les gens qui ont tué Rubens Paiva, ils coûtent environ 30 000 euros par mois à l'État brésilien. Et la Cour suprême au Brésil veut changer ça parce qu'ils veulent mettre la disparition de cadavres comme un crime qui n'a pas de prescription. Ils veulent enlever tous ces bénéfices qui ces assassins reçoivent de l'État. Et donc je pense que le film il a cet impact culturel, historique, mais il a aussi un impact qui est politique, juridique et qui va bien au-delà des écrans.
Et j'ai une autre question liée à ça. Est-ce que tu penses que ce film, qui a un impact, une réception populaire très confirmée, 5 millions de spectateurs au Brésil, c'est énorme, tu penses qu'il va aider à influencer la mentalité des jeunes vis-à-vis de la période de la dictature et des violences qui ont été faites? Tu penses que ce film aura un rôle éducateur pour ces jeunes-là?
Ah, tout à fait, je pense que les jeunes vont voir le film, ils vont comprendre, même s'il n'y a pas la violence explicite dans Marighella, je pense qu'ils vont comprendre un peu le contexte et ça va aider à faire en sorte que cette mémoire de la dictature soit toujours là.
Tu penses, Renate, que ça va aider à changer les mentalités?
C'est une possibilité, effectivement. Il faut continuer à raconter l'histoire. Il faut laisser la mémoire vive. C'est toujours encore les discours, non, les narratives de l'histoire sont très importantes. Donc, ça dépend de qui on a comme président et qui est sous le pouvoir. Cette narrative peut changer d'un côté ou de l'autre. Donc, avoir un film avec cet impact aide forcément à raconter l'histoire des choses réelles qui sont passées et qui, il y a des personnes qui n'y croient pas ou qui pensent qui ne veulent pas voir, ou qui pensent que ce n'est pas exactement comme ça, ou même qui pensent que c'est comme ça qu'il faut faire, non, la torture et tout.
Et en plus, récemment, le Brésil a eu un président qui a justement investi dans un autre type d'histoire, dans en racontant un autre type de mémoire, un autre récit de la mémoire collective.
Avec des changements, des livres à l'école qui racontent une histoire différente, qui disent que la dictature n'a pas existé. Donc oui. Et pendant, quand j'étais au Brésil, donc petite au Brésil, je ne sais pas toi Sandro, mais on avait à l'école des matières obligatoires, dès l'histoire racontée de cette façon, qui était obligatoire dans toute l'école jusqu'à 85, 88 même, quand c'était la législation, 98 pardon.
Nous avons des contraintes de temps aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie par vos éclairages vis-à-vis de ce film et vis-à-vis du cinéma brésilien, de votre vécu. Je pense que c'était très enrichissant, j'ai beaucoup appris. J'encourage tous les auditeurs à voir ce film, Je suis toujours là, et aussi à voir les films qui ont été notés et mentionnés au cours de cette émission, puisqu'ils sont des témoignages très importants et intéressants de cette partie de l'histoire du Brésil. Et je vous propose, avant de passer au prochain sujet, une musique de Caetano Veloso, que je pense que couronne bien cette conversation, qui s'appelle « Est prohibido proibir », « Est interdit d'interdire ». Donc je vous remercie et je vous laisse avec la voix de Caetano Veloso.
A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta, ao porteiro sim, e eu digo não, e eu digo. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim. E eu digo não. É proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido.
Caí no areal na hora adversa. Que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos, que são Deus. Que importa o areal, a morte e a desventura, se com Deus me guardei. É o que me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei. Meu amor, eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim. E eu digo não ao não. E eu digo é. Proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et vous êtes sur Lusitania, votre émission hebdomadaire pour parler des cultures lusophones et de la promotion de la culture lusophone. Comme j'avais dit au début de l'émission, nous allons parler de l'événement qui va se passer la semaine prochaine, le 8 février, au lycée Balzac. Et pour nous, donc c'est une journée de porte ouverte où le lycée va accueillir la communauté qui souhaite connaître le lycée. Et pour nous présenter un peu cette activité, j'ai avec moi ici dans le studio Francisco Lial et Sophie Gomes, qui sont des représentants de l'association des parents d'élèves de la section internationale portugaise au lycée Balzac. Bonjour et bonjour. Bienvenue.
Bonjour.
Merci. Bonjour, merci.
Et j'aimerais bien que vous présentiez à nos auditeurs un peu, Francisco, comment ça va se dérouler cette journée de porte ouverte, je répète, samedi prochain, 8 février, à partir de 10h.
À partir de 9h.
9h.
9h à midi. Voilà, donc c'est des portes ouvertes qu'on fait, que le collège-lycée essaye de faire tous les ans, à peu près à la même période. Donc, collège, lycée, Balzac est situé à Paris 17. Donc, il y a plusieurs sections, donc section internationale, anglais, allemand, allemande, italienne, espagnole, arabe. Il y a une section portugaise qui existe depuis bientôt 25 ans, donc qui a ouvert en 2001. Et donc, bon, en tout cas, merci de nous accueillir pour parler de la section portugaise, où on a eu effectivement après le Covid quelques soucis de candidature. À l'entrée, bon, par mes connaissances et parce que aussi la période était difficile et donc les parents n'avaient pas accès au lycée, accès aux parents et accès au contact avec les professeurs, quoi. Donc ça, bon, la dynamique est un peu en train de s'inverser là. Mais bon, on a toujours besoin de faire connaître la section portugaise. Beaucoup de parents ne savent pas que là, Porte de Clichy, où tous les accès sont. L'accès est relativement facile, quoi. On a une section. Ouais.
Et comme je disais en début d'émission, l'enseignement de la section internationale portugaise, ça fait partie de l'enseignement public, donc c'est gratuit. C'est une école officielle française, donc il y a un cursus d'enseignement de langue et de culture portugaise qui est complètement intégré dans la scolarité officielle française, et les enfants ont une formation enrichie avec leur cycle d'études normal, comme s'ils étaient dans n'importe quel collège, enrichie de la culture et de la langue de la section internationale dans lesquelles ils sont inscrits. De 9h à midi, qu'est-ce qu'on pourra attendre?
Il y a une découverte de l'établissement. C'est un établissement qui a beaucoup d'équipements, quoi. Donc il y a plusieurs salles de gymnase, il y a une piscine, donc il y a un parcours qui va être fait aux parents. Et après, à 9h30, il y a une première session qui est organisée par les professeurs qui accueille les parents pour expliquer un peu comment, ce que c'est que la section, ce que c'est la section internationale, quel est le programme, voilà, quels sont les événements tout au long du cursus qui sont réalisés. Voilà, et donc première session à 9h30, une deuxième session un peu plus tard à 11h.
Et pour nos auditeurs, il faut y être à 9h pile ou on peut arriver pendant la matinée?
On peut arriver pendant la matinée, mais il est préférable d'arriver effectivement à 9h
pour suivre l'enchaînement des événements,
pour avoir le temps de discuter avec d'échanger avec les parents, d'échanger avec les professeurs, d'échanger avec les élèves.
Et les inscriptions au collège en section internationale, elles se passent comment?
Alors les inscriptions, c'est un collège lycée parcours de 6e à terminale qui est public, donc qui est évidemment dans Paris, mais ce qu'il faut savoir c'est que tous les parents, même les parents qui vivent en dehors de Paris, peuvent s'inscrire, hein. Ça on le sait pas assez. Donc Paris et banlieue, voilà, donc des parents qui habitent on a des parents qui viennent d'Argenteuil, on a des parents qui viennent de Courbevoie, on a des parents qui viennent du 16e, donc l'accès est très très bien desservi, quoi. Les inscriptions se font sur la plateforme de l'Académie de Paris, donc il faut déposer un dossier, il y a un certain nombre de documents qui sont demandés, quoi. Donc, les bulletins des élèves, voilà, tout le cursus, quoi. Et ils peuvent, de toute façon, ils peuvent contacter la PESIP, hein, les représentants des parents, s'il y a des questions. Venir aux portes ouvertes, c'est aussi poser toutes ces questions qui ne sont pas forcément faciles avec le numérique, quoi. Donc, la PESIP, les représentants des parents peuvent répondre aux questions et aider en cas de difficulté, quoi.
Et j'ajoute aussi que les inscriptions en collège pour la section internationale, elles ont ouvert le 16 janvier et durent jusqu'au 2 mars.
Alors la date du 2 mars, c'est pour les deux, pour le collège et pour le lycée. Donc il ne faut pas louper le coche parce qu'en fait le dossier de candidature doit être déposé avant cette date-là. Mm-hmm. C'est un dossier de candidature qui se dépose donc à travers la plateforme. Donc il y a différents éléments à donner, notamment les bulletins de notes. Donc il y a toute une liste à donner. Vous déposez votre dossier sur la plateforme et ensuite le collège vous contacte pour vous donner les dates pour le petit test, le petit examen qui aura lieu fin avril. Donc il y a un test écrit et un test oral.
Et est-ce que le test écrit, le test oral, pour des parents qui sont intéressés mais qui ont des enfants que peut-être ils estiment qu'eux ne parlent pas si bien portugais, est-ce que c'est un test très exigeant ou il suffit de maîtriser moyennement
Alors,
la langue ?
Alors le test écrit, c'est un texte qui est donné aux élèves avec des questions d'interprétation et de compréhension. Et le test oral, c'est une présentation de 5 à 7 minutes avec les professeurs qui sont présents. Donc l'enfant se présente et il leur explique leur volonté, pourquoi ils veulent accéder, entrer dans ce collège-là aussi. C'est un test qui permet aux professeurs de connaître le niveau en portugais des élèves, mais qui se rajoute avec le dossier de candidature. Voilà, le choix des professeurs ne se fera pas uniquement que sur les deux tests, mais aussi d'un point de vue global avec le dossier de candidature qui est déposé.
Et votre expérience, vous avez un enfant qui est en section ?
J'ai un enfant qui est en sixième cette année. L'année dernière, ainsi que les deux, il ne savait pas très bien s'exprimer en portugais, il le comprenait très bien. Maintenant, l'expression était un peu plus compliquée et c'est vrai que nous avions un peu des peurs de qu'il soit à l'école, parce que est-ce qu'il avait le niveau ou pas. C'est pour ça que le niveau est évalué par les professeurs, que parfois les parents pensent que l'enfant n'a pas le potentiel et le niveau, alors que c'est les professeurs qui l'estiment et qui voient exactement le potentiel. Moi, je donne mon exemple de mon fils. De septembre à maintenant, il y a eu un saut énorme et un apprentissage énorme qui a été fait. Donc voilà, ne pas hésiter à les inscrire. Il faut de toute manière déposer une candidature, il faut y aller et ensuite vous verrez bien ce que vous diront les professeurs. Mais faut pas, n'ayez pas de crainte à poser cette candidature-là.
C'est très important ce témoignage parce que j'imagine qu'il y a des parents qui sont un peu, qui voient ça comme un obstacle pour inscrire leurs enfants et que finalement ils peuvent dépasser cet obstacle.
Il ne faut vraiment pas qu'ils aient peur de les inscrire, qu'ils n'aient pas peur non plus avec la charge de travail, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est 7 heures de plus par rapport au niveau scolaire classique. C'est une charge de travail qui est inclue dans leur semaine de travail, qui n'est pas insurmontable et qui se fait vraiment de manière très naturelle.
J'invite tous les auditeurs à visiter la page du lycée Balzac, tous ceux qui sont intéressés. Oui. S'il y a des questions pour les dossiers, je les encourage à contacter l'association
APESIP, par mail.
Ouais. Par mail, donc nous sommes aussi sur Facebook.
N'hésitez pas à contacter et j'encourage aussi tous les auditeurs à aller la semaine prochaine, samedi, à 9h.
Ah, nous avons hâte de les voir tous frapper à la porte.
Je le souhaite. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup.
Merci
beaucoup. Donc, autre que les portes ouvertes du lycée Balzac, je vous suggère aussi de participer à la rencontre Trabalhar Juntos, une initiative de Cap Magellan qui aura lieu à la Cité universitaire de Paris. Il faut trouver des informations sur le site de Cap Magellan et vous inscrire. Et aussi, c'est une autre façon de contribuer à un plus grand dynamisme de la communauté lusophone à Paris. Donc, pour ma part, je vous remercie de votre attention, chers auditeurs. Je remercie aussi Damien Gissa et Armand Gury pour leur soutien pendant l'émission et Sandro et Renata qui nous ont aussi beaucoup appris. Très bonne semaine à tous.
Au revoir. Au revoir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.